savoir ce que c'est exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Marcello, come here.
Tous les cinémas du monde. Sophie Dorlotin, Elisabeth Le Quéré.
Bonjour et ravie de vous retrouver dans tous les cinémas du monde. Aujourd'hui, nous allons beaucoup voyager en Belgique, où nous irons rêver sous le capitalisme avec Sophie Bruno, une anthropologue qui a fait tout un travail de recherche et d'écoute autour de la souffrance au travail. Nous partirons aussi au Sénégal avec Omar Sy, qui présente à Dakar et Saint-Louis son nouveau film Yao. Nous vous parlerons aussi du nouveau Spider-Man, bien sûr, et d'une palme d'or japonaise, une affaire de famille de Koreeda. Bonjour Sophie.
Bonjour Elisabeth, bonjour à toutes et à tous.
Mais avant tout ça, on fait cap sur la Thaïlande, la première étape de notre tour du monde du cinéma, Sophie.
Oui, la Thaïlande où vient de sortir en salle le film Ten Years Thailand. C'est une surprise car ce film se livre à une rare critique sur grand écran de la junte au pouvoir. On y voit une femme nue lapidée par une foule rappelant les manifestants pro-junte, des soldats ridiculisés lors d'une opération contre une exposition de photos, une générale en uniforme rose en voyant les récalcitrants se faire découper dans l'espace. Autant de sujets qui sont jamais montrés au cinéma habituellement en Thaïlande. Et en fait, ce sont quatre jeunes cinéastes qui imaginent ce qui pourrait être leur pays dans 10 ans, un peu sur le modèle de Ten Years in Hong Kong. Et ils espèrent ainsi attirer en salle 500 000 spectateurs à quelques semaines d'élections promises par les généraux.
Aux États-Unis, c'est une chanson qui est bannie de certaines antennes.
You know, on second thought.
Yes.
I really can't stay.
Maybe it's cold outside.
I've got to go away.
Maybe it's cold outside.
This evening has been
hoping that you drop
so very nice.
Alors c'est pourtant une chanson traditionnellement entendue sur les radios en cette période de fête, un Baby It's Cold Outside, un morceau créé en 1949 et qui obtint l'année suivante l'Oscar de la meilleure chanson originale du film La Fille de Neptune. Alors ce titre a attiré des duos célèbre, hein, Ray Charles, Ella Fitzgerald ou Esther Williams et Ricardo Montalban pour l'original. Cette chanson donc n'est plus en vogue à l'heure du mouvement MeToo. En effet, on y entend un homme presser une femme de céder à ses avances. Il lui dit qu'elle ne doit ni rentrer chez elle ni résister car il fait trop froid dehors. Une radio de l'Ohio a décidé de ne plus la diffuser, bientôt suivie par d'autres antennes, y compris au Canada.
À Marrakech, Sophie, c'est un film autrichien qui a obtenu l'Étoile d'Or.
Oui, c'est un film qui est intitulé Joy, la joie, signé par l'Autrichienne Soudabé Mortezaï.
Wow, I like the chip. But no problem, I know how to do this one. But
Mom, please. This job is too hard for me to do. I don't want to do this job.
Joy, donc le film primé au festival de Marrakech, raconte l'histoire d'une jeune Nigériane victime de trafic sexuel à Vienne. Ce film avait précédemment remporté un prix à Venise dans la section Journée des auteurs. Et puis à Marrakech, toujours le Tunisien Sid Al Saadi a reçu le prix d'interprétation masculine pour le film intitulé Regarde-moi, dirigé par Nejib Belkadi.
Autre prix en France, cette fois le jury du prix Louis de Luc, donc qu'on appelle traditionnellement le Goncourt du cinéma. Eh bien, le prix Louis de Luc cette année a été attribué à un film qui est en compétition à Cannes, mais qui était reparti Bredouille de la Croisette.
Bon, j'ai rencontré un Parisien. Bon, je suis amoureux, voilà. Il s'en fout de moi, je pense, mais je suis persuadé que je vais faire changer d'avis.
Non, mais t'es complètement con ou quoi?
Voilà, c'est Plaire, aimer et courir vite de Christophe Honoré. Une histoire d'amour entre un jeune étudiant breton et un écrivain en vue, plus âgé que lui et malade du sida dans les années 90. À noter que Jusqu'à la garde de Xavier Legrand remporte le prix Louis de Luc du meilleur premier film ex aequo avec Les garçons sauvages de Bertrand Mandicot.
Et enfin, on a le nom de la star française, qui va présider en 2019 le jury de la Berlinale.
Et oui, c'est Juliette Binoche.
C'est pour moi une immense fierté de vous accueillir ici dans le plus bel endroit du monde, une salle de cinéma. Chaque film est un voyage dans l'imaginaire qui transcende les frontières des hommes et les fesses de Brigitte Bardot.
Voilà, Juliette Binoche, une actrice formidable qui a aussi le sens de la dérision, ce qui ne gâte rien. Ici, c'était un extrait d'un épisode de la série 10%. La star française de 54 ans à l'aura internationale est la première actrice européenne à avoir remporté un prix d'interprétation dans les trois plus grands festivals de cinéma, Cannes, Venise et Berlin. Le festival de Berlin se tiendra du 7 au 17 février prochain.
Et maintenant, cap sur le Sénégal avec la projection, je le disais, à Dakar et à Saint-Louis, du nouveau film de l'acteur Omar Sy, un film qui s'appelle Yao, réalisé par le producteur Philippe Godot. L'avant-première se déroule ce week-end et notre correspondant William Delesseux y était.
La séance a lieu en plein air, place Faidherbe, au centre de Saint-Louis. Pour assister à la toute première projection du film, il faut être saint-louisien et muni d'un carton d'invitation. Beaucoup sont venus soutenir un des leurs, le jeune Lionel Bass, 11 ans. Yao, c'est lui.
Ça fait une grande satisfaction parce qu'il y avait mes parents, mes amis, tout ça qui étaient là. Ils sont très fiers même. Et ils me disent toujours de rester modeste, de rester soi-même, même si on est une star, de savoir d'où on vient, tout ça.
Est-ce que vous avez envie de continuer dans le cinéma ?
Avant même ce film, oui, je voulais faire du cinéma et j'aimerais bien continuer.
Lionel Bass, c'est la révélation du film. Pour ce premier rôle, il est touchant, souvent juste. Il partage l'affiche avec Omar Sy.
Regardez Lionel, regardez le film, c'était quelque chose. Voilà. C'était une grande soirée pour nous en tout cas. Je vais dire que c'était une soirée aussi assez agréable pour vous. Mais voilà, on s'en souviendra, donc merci à vous tous.
Revenir au Sénégal, projeter le film, une évidence pour le réalisateur Philippe Godot.
On avait toujours dit avec Omar qu'on ferait les premières projections au Sénégal. Bon, après, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, des fois, il y a un décalage. Mais voilà, non, c'était très, très émouvant de revoir le film à côté de Omar et de Lionel. C'est vraiment une parenthèse qui est agréable pour nous. Oui.
Le rôle a été écrit pour Omar Sy. Il incarne un écrivain et un acteur français, père de famille, qui part en promotion au Sénégal. L'homme est alors en train de se séparer de sa femme en France. Ce rôle de père est beaucoup plus attendu. Et au Sénégal, Yao veut se faire dédicacer son livre. Il parcourt plusieurs centaines de kilomètres, direction Dakar. Le jeune garçon rencontre l'auteur à succès, Amadou Tall, et va ensuite le guider vers ses origines familiales dans un road trip à travers le pays. Omar Sy.
On ne voulait pas, surtout pas être dans le cliché ou dans des images un petit peu de déjà vu ou dans des formes de trucs un peu classiques. On voulait être très authentique. Et en 2018, le Sénégal est le Sénégal de 2018. Donc les choses évoluent. Et donc c'était important de ne pas se rater là-dessus.
Mais il faut dire que le Sénégal filmé par le réalisateur est souvent esthétisé, lisse, voire très consensuel. Est-il destiné uniquement au marché français, Omar Sy?
C'est un film, justement, où on n'a pas essayé de différencier qui que ce soit. Pour nous, c'est un film qui doit être universel, parce que les valeurs qu'il porte le sont, selon nous, et donc il est destiné au monde entier pour nous.
Mais bien, ton travail, là. C'est bien, non? Tu vas? Je suis très content. Tu as bien travaillé.
Yao sera sur les écrans le 23 janvier en France, deux jours plus tard, au Sénégal. William Delesseux, de retour de Saint-Louis, RFI.
Voilà.
11 nouveaux films cette semaine, un éloge de la rébellion adolescente, c'est dans l'air du temps, Sophie, ça s'appelle Mortal Engines, les films d'animation qui nous annoncent mieux que personne l'arrivée des fêtes de fin d'année, Pachamama, Oscar et le monde des chats, les nouvelles tribulations de Rémi sans famille et de son chien.
Et de son petit singe.
Et de son petit singe, c'est vrai, on le voit bien sur l'affiche d'ailleurs. Le massacre d'Utøya, cette petite île de Norvège en juillet 2011, porté à l'écran par Eric Pop. Mais bon, l'événement, il faut bien se le dire, dans les salles de cinéma cette semaine, c'est la sortie du film qui a décroché la Palme d'Or au dernier festival de Cannes, Une affaire de famille de Hirokazu Koreeda.
Alors cette famille qui se tasse dans une petite maison d'une seule pièce coincée entre des immeubles à Tokyo n'est pas une famille comme les autres. Alors certes, il y a une grand-mère, des parents, un petit garçon et une jeune fille faisant office de tante, mais le père apprend à son fils à chaparder et puis un soir, sur le chemin qui les ramène chez eux, l'homme et le petit garçon recueillent une fillette de 5 ans seule dans le froid. Le lendemain, au moment de la ramener chez elle, le père et la mère s'aperçoivent que la petite fille est maltraitée et indécise. indésirable. Ils vont donc l'adopter. Et par petites touches, le réalisateur Hirokazu Koreeda va nous montrer que même si cette famille n'en est pas vraiment une au sens biologique du terme, en fait, les liens qui unissent ses membres sont plus forts que tout.
Et oui, la famille, c'est le grand sujet. Hein. C'est le sujet d'élection de ce cinéaste japonais de 56 ans.
Et oui, déjà dans Nobody Knows en 2004, hein, déjà en compétition à Cannes, Hirokazu Koreeda montrait 4 enfants livrés à eux-mêmes dans un appartement après le départ de leur mère. Plus récemment, toujours à Cannes, il y a eu tel père, tel fils, questionnant la force du lien filial. Quand un père découvrait que son fils n'était pas son enfant biologique, puisque 2 bébés avaient été échangés à la maternité. Hirokazu Koreeda.
J'aurais préféré que le terme famille n'apparaisse pas dans le titre du film parce que je ne voulais pas forcément induire une histoire au sens traditionnel. Je voulais traiter de la famille sous l'angle social, sociétal, une famille qui a toutes les apparences d'un groupe traditionnel. Dans mes films précédents, comme Nobody Knows, je traitais déjà d'une famille, mais marginalisée, laissée de côté par la société. Dans ce film, cette famille est constituée d'individus rejetés par la société sous une forme ou sous une autre, ils se réunissent et arrivent à trouver une forme de bonheur, un bonheur de nouveau menacé par la société.
Effectivement, à l'harmonie de cette vraie fausse famille qui bricole dans les marges et menacée par l'ordre établi, le père perd son travail à la suite d'un arrêt maladie, la mère est soumise à un chantage de la part d'une collègue, elle va accepter de se faire licencier. Sous des dehors un peu de chronique familiale tendre, en fait, boue une colère, hein, la colère sociale de Hirokazu Koreeda.
Il n'était pas question d'exprimer cette colère de manière frontale, mais je dois admettre que je ressens un certain malaise quand je vois ce qui se passe dans la société japonaise à l'heure actuelle. Il y a, à l'égard des plus démunis, un manque de considération et de bienveillance, et cela me choque beaucoup. Des tendances conservatrices prennent le dessus dans le pays. La famille est vue de façon extrêmement rigide. Ce serait inconcevable en France. C'est contre cela que je me bats.
Et en fait, c'est assez iconoclaste du coup de faire un film comme ça un pays comme le Japon. On sait que les liens du sang sont quand même tellement importants.
Les liens du sang et puis la morale. Hein. Là, quand même, on voit une famille qui érige le vol en mode de survie. Effectivement, Hirokazu Koreeda critique la politique néolibérale du gouvernement. C'est pas la première fois qu'il s'attaque au gouvernement de Shinzo Abe, qui le lui rend bien, puisque lorsque Hirokazu Koreeda a remporté la Palme d'Or à Cannes, en tout cas sur le coup, le Premier ministre et son entourage n'ont pas réagi, n'ont pas félicité. Pourtant, ça faisait 21 ans qu'on attendait une palme nippone. En fait, la dernière, c'était pour L'Anguille de Shohei Imamura en 1997. En revanche, en salle, le film a extrêmement bien marché. Il est sorti en juin au Japon et puis en Chine. Il a fait une excellente performance. Il se hisse dans le top 10 de l'année avec plus de 54 millions de dollars de recettes.
Et pourtant, vous disiez, c'est un iconoclaste, mais en même temps, il s'inscrit vraiment dans une vraie tradition cinématographique japonaise avec ce film.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, Ozu. Alors évidemment, on pense forcément à ce grand maître japonais des années 40-50, Ozu et ses œuvres filmées dans des familles au ras du tatami. Mais lui, Hirokazu Koreeda, il se reconnaît d'autres références.
Je n'ai pas revu de film pour préparer celui-ci, mais peut-être y en a-t-il deux qui me sont familiers. D'abord, le petit garçon de Nagisa Oshima qui montre un enfant exploité par des parents peu scrupuleux. Et puis, Lady Bird de Ken Loach, cette histoire d'une femme déshéritée à qui les services sociaux retirent les enfants. C'est un film que j'aime vraiment beaucoup.
Voilà, une affaire de famille de Hirokazu Koreeda, un futur classique lui aussi. Palme d'Or à Cannes, il a été choisi par le Japon pour le représenter dans l'Oscar du meilleur film étranger.
Je m'appelle Peter Parker. La suite, je suis sûr que vous la connaissez. J'ai sauvé la ville, je suis tombé amoureux, et après j'ai sauvé la ville encore une fois, et encore une fois, et encore une fois. Je suis partout, dans des comics, sur des paquets de céréales, j'ai même fait un album de chants de Noël. Et je suis une glace assez bof. Mais il s'agit pas de moi. Enfin, plus maintenant.
La bande originale de Spider-Man New Generation avec ses 3 auteurs aux manettes, Bob Persichetti, Peter Ramsey et Rodney Rodman.
Et c'est une piqûre de jouvence pour Spider-Man ?
Complètement. En fait, déjà, c'est le premier à l'écran, c'est le premier Spider-Man noir, métis, pour être tout à fait précise, puisqu'il est né en fait d'un père afro-américain et d'une mère portoricaine. Il s'appelle Miles Morales. C'est un gamin de Brooklyn. Ses seuls centres d'intérêt, c'est le rap et les graffitis. petit, jusqu'au moment où il se fait fatalement piquer par cette araignée radioactive qui va le transformer en Spider-Man. Alors très habilement, et on l'entendait bien dans la bande-annonce, les scénaristes jouent sur les deux tableaux, l'humour autoréflexif, qui bien entendu va ravir les fans comme il se doit, hommage récurrent à la bande dessinée originelle, celle de 1962 avec ses onomatopées, ses bulles qui s'affichent à l'écran, sachant que ce nouveau Spider-Man métis, il est lui bien en prise avec son temps. Les scénaristes de Marvel n'ont jamais caché s'être inspiré de Barack Obama pour créer ce nouveau super-héros caché derrière son masque rouge et noir. Alors bien sûr, Sophie, il y a un méchant hors norme, le caïd, des courses-poursuites, des combats. On entre dans la quatrième et même la cinquième dimension. Je vous épargne tous les détails d'une intrigue assez compliquée. Mais bon, le film, sur le fond, reste fidèle à ses valeurs originelles. Un récit d'adolescence et puis une belle fable sur les rapports père-fils. Alors, il n'est pas totalement interdit de trouver ça un peu appuyé, voire trop appuyé avec cette histoire entre les pères biologiques, les pères d'élection, etc. Mais bon, après tout, c'est un film de Noël, c'est le moment de la famille et vraiment c'est très très réussi. Certains disent même que c'est la meilleure adaptation de Spider-Man à l'écran.
Tous les cinémas du monde.
Tous les cinémas du monde.
Dans 3 minutes, on retrouve notre invitée Sophie Bruno, son documentaire Rêver sous le capitalisme, pour parler de la souffrance au travail à travers les voix et les souvenirs de 12 rêveuses, 12 personnes qui racontent leurs rêves. Plutôt plus précisément leur cauchemar de souffrance au travail. Mais avant, je vous propose de faire une petite pause musicale avec Barbara Carlotti. Son album s'appelle Magnétique et cette chanson a été composée à partir de ses rêves.
Tout ce que tu touches,
cette touche,
tout ce que tu vois,
un écran plat,
tout ce que tu sens, goûte, tout devant toi,
toi, immeuble, arbre, ciel,
tout ce que tu penses,
je ne sais pas,
tout ce que tu entends,
ta voix, la rue,
tout ce que tu chantes, tout ce que tu sens,
le soleil, ton air, le vent,
tout ce que tu approches, les structures, les sons, les formes, les ombres, les êtres.
Thank you.
monde et beaux rêves qui dansent.
Rêver sous le capitalisme, est-ce possible? Est-ce seulement souhaitable? Parle-t-on de rêve ou de cauchemar? Comment le travail nous transforme jusque dans notre inconscient? C'est le sujet d'élection de notre invitée d'aujourd'hui, Sophie Bruno. Elle a rencontré des dizaines de personnes qui se sont confiées à elle, qui lui ont livré l'étoffe de leurs rêves, ou bien plutôt de leurs cauchemars. Elle a fait un film autour de 12 de ces témoignages, rêver sous le capitalisme.
En fait, je suis au bureau. Je suis en train de traiter mes dossiers. Ce sont des dossiers d'accident de travail. Mon rôle, c'est de veiller sur la sécurité, la santé et le bien-être des travailleurs. C'est la phrase que j'utilise généralement. Et la médecine du travail me rapporte le corps d'un travailleur décédé. C'est un homme d'une cinquantaine d'années, chauve, nu, gros, bedonnant, déjà un peu vert et noir. Et on me le met dans les bras. Et puis l'image d'après, je suis à côté de ma voiture, de nouveau avec lui à côté de moi, et puis sur le parking du travail. Et l'image d'après, je suis dans le salon plutôt dans la salle à manger de mes parents. Le mort, je le connais. En fait, c'est un de mes anciens collègues. C'est pas lui, physiquement, c'est pas lui, mais c'est lui, quoi. Donc dans mon rêve, c'est lui, et c'est normal que ce soit lui. Et ce collègue, ben, il a été soit mis à la porte, soit il a démissionné, soit enfin il est plus là, quoi. Et les informations sont telles que moi, je n'ai jamais eu le fin mot de cette histoire. Je ne sais pas pourquoi il n'est plus là.
Bonjour Sophie Bruno.
Bonjour.
On vient d'entendre un extrait de votre film Rêver sous le capitalisme, l'un des 12 témoignages dont je parlais. Vous êtes anthropologue de formation, vous êtes professeur à l'INSAS, la grande école de cinéma de Bruxelles. Vous avez travaillé entre autres sur les pêcheurs à cheval de Belgique, sur les migrants aux États-Unis, sur les arbres. Alors dans Rêver sous le capitalisme, votre nouveau film, vous revenez sur la souffrance au travail. 14 ans après, ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. En 2006, hein, déjà, les témoignages étaient terribles. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Est-ce que ça a empiré ou est-ce que les choses se sont transformées?
Oui, à l'époque, je pensais qu'on avait atteint certaines limites en termes d'intensification, d'étériorisation, d'approche quantifiée des pratiques qualitatives. Et en fait, pas du tout. Ce qui était dans le privé est arrivé dans le public. Et tout s'est exacerbé, aussi bien la demande par objectif, avec des résultats de plus en plus intenables, qui deviennent tellement déraisonnables qu'ils en arrivent à faire perdre le sens, en fait. Il y a une déconnexion complète, et on l'entend à travers la contextualisation des rêveurs, entre ce qui est demandé et le travail réel.
Cette femme dont on vient d'entendre le témoignage, elle est médecin du travail. Comment vous les avez rencontrés, ces gens? Est-ce que c'était par quel biais avez-vous accès à eux? Parce que c'est pas évident de raconter. Certains de ces témoignages sont vraiment déchirants. Là, elle rêve quand même qu'elle a un cadavre sur les bras.
Ouais, sur les
c'est
bras,
quelqu'un
sur le
qui a
dos.
Été licencié dans son entreprise.
Et elle se demande qui c'est ce cadavre. Et elle se demande à la fin à quoi je sers. Mais c'est ce qui était le plus long et le plus dur et le plus éprouvant, c'est de collecter les rêves. Parce que l'idée du film s'inspire d'un travail de Charlotte Berat qui s'intitule Rêver sous le Troisième Reich, où dans les années 30, cette femme intellectuelle communiste a l'idée lumineuse qu'on doit rêver différemment selon les régimes politiques. Et elle va clandestinement, parce qu'il y a déjà le pouvoir de la peur qui est mis en place, avec l'aide d'un ami médecin, collecter dans son entourage plus ou moins 300 rêves en 6 ans qu'elle va faire sortir d'Allemagne. Et donc, si vous voulez, comme vous disiez tout à l'heure, j'ai fait un premier film il y a près de 15 ans, et j'avais envie d'y revenir. Alors pourquoi, je savais, c'est une question qu'il faut pas lâcher, la souffrance au travail, la santé au travail. Mais il y avait la question du comment, c'est-à-dire comment y revenir. Et comment y revenir, c'est une vraie question de cinéaste, en fait. Et la lecture du livre de Berat a été un élément déclencheur, c'est-à-dire j'ai déplacé son approche à aujourd'hui, sous le capitalisme néolibéral, et dans le monde du travail. Donc la sélection était beaucoup plus rude aussi, parce que mes intentions étaient plus précises. Et donc j'ai mis effectivement un peu plus de 3 ans pour collecter cette douzaine de rêves au final, parce qu'on peut pas aller, vous voyez, sur le trottoir et demander aux gens, vous rêvez de votre travail, et puis de leur demander ensuite d'interpréter leur propre propres rêves, ce dont ils seront capables. Et ça, c'est très différent d'il y a 15 ans. Aujourd'hui, les gens ont des clés de compréhension par rapport à leur propre organisation du travail. Ils peuvent analyser eux-mêmes le lien entre le contenu du rêve, qui est un rêve manifeste, où le contexte est déjà clairement établi à l'intérieur du rêve lui-même. Ce sont des rêves politiques, dit Bayrat. Donc, entre le contenu du rêve et le contexte qui l'a engendré. Donc, ils ont des clés et ils peuvent pointer ce qui a engendré leur cauchemar, en fait. Et ils peuvent mettre du sens sur des images qui, parfois, paraissent très incongrues ou très étonnantes dans leur exagération et dans leur condensation.
On ne voit pas forcément leur visage à ces personnes hein, qui vous parlent, Sophie Bruno. Quelquefois, oui. Comment s'est fait le choix ? Est-ce que c'était parce que certains ne voulaient pas être filmés face caméra ?
Oui. Et au départ, moi, j'avais pensé forte du premier rêve que j'avais filmé, qui est cette médecin qui est cannibalisée par ses patients. Hein, c'est typique de la souffrance, de ceux qui s'occupent de la souffrance. Il y a plusieurs personnes dans le film, et ça aussi, dans l'approfondissement de la souffrance au travail, c'est un point à noter.
On lui mange le cerveau, elle.
Oui, qui sont dans le prendre soin. Il y a quatre personnes qui sont dans le prendre soin, notamment cette médecin de quartier. Et là, ben, elle reçoit la misère du monde et elle peut rien faire, en fait, au niveau de la cause. Et des pratiques qui se sont généralisées dans le monde du travail, dont elle voit la souffrance qui défile. Et bref, il y a plusieurs personnes qui sont dans le prendre soin et ça a dû comment le mal s'est approfondi. Et ce qui a été long à obtenir, effectivement, c'est de pouvoir les filmer. Et j'ai compris que si je voulais arriver à faire le film jusqu'au bout, il fallait que je sépare l'image du son. Parce que des gens voulaient bien témoigner, mais voulaient témoigner juste au son. Et moi, je leur disais, je peux pas vous flouter, je peux pas vous filmer à contre-jour, je peux pas vous mettre un bandeau ou faire une voix déformée, parce que contrairement à la télévision qui nous a habitués à cette écriture, qui est en fait stigmatisante, voire victimisante, j'avais besoin que le spectateur, spectatrice puisse s'identifier au rêveur. Et pour que ce processus d'identification marche, qui est une vraie fonction politique du cinéma, il faut que je puisse me reconnaître dans l'autre, que l'autre soit impossible moi-même. Donc effectivement, on peut pas passer par des écritures victimisantes, sinon je m'en distancie, je me différencie de lui. Et du coup, j'ai séparé l'image du son, donc certains apparaissent à l'image, souvent dans leur espace de travail. Il y en a trois et il y en a neuf qui sont en off, qui... Et cette contrainte qui est venue des rêveurs et rêveuses, en fait, a été un formidable espace d'invention pour moi, parce qu'au départ, j'ai pas pu le penser toute seule, cette contrainte, mais elle m'a été opposée. Donc, quand il a fallu la traverser, en fait, il fallait résoudre ce problème qui était quelles images je vais mettre avec ces récits de rêves.
Vous auriez pu choisir, par exemple, même si c'est un coup, mais par exemple, des images d'animation des rêves. Ce que vous avez
beaucoup
choisi.
Beaucoup de solutions sont possibles à partir d'un même problème. Et c'est vrai que à partir de ce moment-là, j'ai élaboré en fait un questionnement qui a mis aussi plusieurs années. Et donc, je suis partie dans une écriture qui était liée au réel, mais avec l'idée petit à petit qui est née aussi bien dans le rapport aux matériaux que dans le rapport au récit, que dans le rapport aux lectures, très inspirée de Bachelard par exemple, que la dimension onirique se trouvait dans les espaces réels. Vous voyez qu'il n'y a pas de scission entre conscient et inconscient, entre réel et onirisme, et que on peut trouver dans des espaces assez improbables, c'est-à-dire des espaces de travail, des dimensions poétiques et des rapports d'abstraction qui sont ancrés dans la réalité. Donc j'ai toujours été inspirée des récits de rêves de travail pour essayer d'imaginer, parce que même si on est cinéaste documentariste, on fonctionne avec des rapports d'imaginaire, on associe. J'ai toujours été inspirée des récits de rêves de travail pour essayer de trouver des lieux, des moments, des activités, des rapports de lumière pour associer dans une dialectique qui à la fois est singulière et à la fois participe aussi à une sorte de généralisation.
Ce qui est intéressant justement, c'est qu'il y a presque une forme d'inconscient collectif qui se forme à travers ces 12 personnes qui probablement ne se connaissent pas, qui ne travaillent pas dans les mêmes lieux, qui ont des expériences qui sont très 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 différentes, et pourtant c'est toujours les mêmes paroles qui reviennent, des rêves, vous le disiez, de cannibalisme, des rêves de mort, des rêves de perte de sens, perte de dignité, et cette interrogation qui revient sans cesse, moi c'est ce qui m'a frappé dans votre film, à quoi je sers?
Oui.
Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit du capitalisme contemporain ?
Mais je crois que vous mettez le doigt sur quelque chose d'important, c'est que le film travaille les récurrences, donc les résonances entre les rêves. Ils finissent par, dans un phénomène d'addition, par créer une communauté des rêveurs. Et ils pointent à travers leur diversité professionnelle, parce qu'effectivement, il y a des cadres sup, il y a des employés, il y a une caissière de grande surface, et ils pointent tous des pratiques qui sont généralisées dans le monde du travail. Ils disent tous comment leur subjectivité est travaillée par le capitalisme.
Mais en même temps, vous mettez ensemble des gens, vous parliez de la caissière, donc, dont on sent bien que le travail, son travail est vraiment très très difficile, y compris physiquement. Elle rêve du gling-gling de sa caisse la nuit. Et une autre personne, par exemple, qui est tyrannisée par un petit chef. Et ça, effectivement, ça dit moins de l'essence du capitalisme, pourrait-on penser.
C'est un système de capitalisme néolibéral, c'est un peu long pour le titre, hein, mais où l'on retrouve effectivement, que ce soit dans une grande surface ou un groupe d'assurance, des pratiques de terrorisation, parce que la terrorisation est venue dans le tertiaire aujourd'hui, ou des pratiques liées à la peur au niveau managérial, une utilisation managériale de la peur dans un système qui est basé sur la précarisation, ce qui n'a rien à voir avec la précarité. La précarisation est pensée comme telle par le système. Donc il y a une réduction du personnel et on utilise le chômage comme un levier, hein, pour obtenir des gens un don de soi à l'entreprise, sous prétexte qu'il y en a 10 qui veulent bien prendre le poste. Et en plus, à l'autre porte, à la porte de la sortie, il y a une protection sociale qui est de plus en plus mise à mal et détricotée. Donc, effectivement, les gens ont peur de perdre leur travail, ont peur de ne pas être à la hauteur. Et Hannah Arendt, dans son analyse de totalitarisme, met en évidence comme quoi cette peur annihile notre faculté de penser. Et elle entraîne des conduites de soumission et d'obéissance. Ça, je trouve très intéressant. Et on le trouve en fait chez ces gens qui, malgré la perte de sens, malgré parfois le détricotage des règles de métier, de la qualité du travail, de l'éthique professionnelle, continuent quand même et participent parfois à des actes qu'ils réprouvent moralement eux-mêmes, mais parce qu'ils ont peur de perdre le travail.
Et même le détricotage, hein, des liens sociaux à l'intérieur d'une même entreprise.
La société veut, comme toute société commerciale, que les chiffres soient toujours améliorés. Et donc, du coup, on doit toujours faire un volume plus grand avec moins d'employés. Notre productivité est aussi calculée en nombre d'appels. Donc, si vous voulez, quand on fait une opération à l'écran, un gestionnaire qui encode un contrat, il y a un monsieur, un spécialiste qui est venu pour minuter nos opérations et faire une statistique un peu moyenne. Quelqu'un qui va faire un nouveau contrat, c'est autant de minutes. Quelqu'un qui va faire un changement dans un contrat, ce qu'on appelle un avenant, c'est autant de minutes. Une opération, un changement d'adresse, une opération mineure, c'est autant de minutes. Et les appels, tout ce qu'on a comme appel est informatisé. Donc ils ont des listings, on sait combien d'appels on a eu, combien de temps, parce que si on a mis trop de temps, c'est aussi louche, hein, vous imaginez, on a peut-être téléphoné à son voisin pour prendre de ses nouvelles, hein, comme si on avait que ça à faire. Et notre team leader nous a fait savoir qu'il écoutait nos conversations sans qu'on le sache. Donc il ne nous prévient pas. Donc à tout moment, lui sait prendre l'écoute, nous mettre sur écoute, écouter tout ce qu'on raconte.
Ça, c'est terrible, ce témoignage.
Oui, et ça, c'est lié à la généralisation de l'outil informatique, hein, qui a permis un contrôle des employés, des salariés de manière efficiente dans l'immédiat. Et c'est aussi quelqu'un qui travaille dans un plateau, un open space, qui est devenu l'unité standard d'architecture aujourd'hui, hein, tout le monde se retrouve dans un open space, et contrairement au discours officiel qui est on va plus communiquer, on va transmettre des informations, on se retrouve avec des gens qui, j'ai jamais eu autant de doléances en filmant dans un open space, parce que je rajoutais du regard au regard.
C'est du contrôle, hein.
Mais bien sûr.
C'est de l'autocontrôle de chacun sur chacun,
ouais.
En fait.
Oui, c'est ça. C'est non seulement les uns se contrôlent les uns les autres, mais en plus, on finit par se contrôler soi-même, ce que dit Foucault à travers le panoptique. Hein. L'open space est une architecture optique, donc les gens finissent par se regarder. Et donc, on invente un mobilier urbain qui est extraordinaire, enfin mobilier de bureau, où on retrouve des casques de coiffeurs qui tombent du ciel pour aller téléphoner sans qu'on nous entende, ou des sièges de confessionnel où on se met pour parler à deux sans être entendu par le reste du monde. Et on remarque dans les comportements que les gens sont à se balader avec leur ordinateur parce qu'ils ont plus de bureau personnalisé puisque tout est dépersonnalisé, on occupe l'espace quand on arrive en fonction de ce qui reste disponible, et les gens finissent par investir juste la petite porte de leur vestiaire à l'arrière, comme dans les salles de sport, parce que c'est le seul endroit qui leur appartient encore.
Comme dans les lycées. Et vous, vous en parliez, Sophie, lorsque vous parliez du dispositif visuel que vous avez dû adopter pour que le spectateur puisse bien entendre ces paroles, notamment des rêveurs, ceux qui n'ont pas voulu être filmés. Vous filmez ces espaces, les espaces de bureau, souvent la nuit.
Oui, la nuit, et ben, cet open space-là, c'est en plein jour, parce que comme c'est la pleine lumière, et les gens, en fait, ne peuvent même plus juguler la lumière, donc ils sont même aveuglés, et souvent, ils vont chercher des espaces de discrétion en téléphonant ou en allant avec leur ordi sur les plateaux, les halls, et certains me disent, il n'y a qu'aux toilettes où je suis tranquille, où je peux avoir la paix. Donc, la toilette devient le lieu de discrétion, en fait, ce qui est quand même assez incroyable. J'ai lu un petit livre qui s'appelle Éloge de l'ombre de Tanizaki, qui est formidable, qui dit aussi, comme nous avons besoin de pénombre pour voir la beauté, mais aussi pour se retirer, pour être en repli et pour parfois faire exister des choses que nous ne pouvons pas faire exister en pleine lumière, et notamment parfois des conversations ou des paroles ou un type de parole. Et du coup, ça va mettre en lien, mais le film travaille un peu comme dans un rêve, des jeux de rupture entre jour et nuit, et dans la nuit, un jeu entre parfois lumière naturelle et artificielle, et aussi parce que c'est évidemment dans le jeu d'écriture sur l'onirisme, le rapport à parfois les reflets, hein, comment la réalité est déformée dans une autre réalité qui n'est pas moins vraie ou moins importante que la première, qui est autre, comme le rêve, vous voyez, est une autre réalité. On pourrait dire plutôt que j'ai fait un rêve, je vis un rêve, parce que c'est une espèce de cinéma intérieur qui est un rapport d'expérience, en fait, et qui, je pense, aujourd'hui, en tout cas, c'est un peu ce que j'ai ressenti à travers ces années de travail autour de ce film, mais sont un rapport d'expérience qui ont parfois des messages à nous donner et permettre de retrouver cette espèce de capacité d'interpellation qui était moi, comment dire, mon but, c'était comment revenir à cette problématique en retrouvant une forme d'interpellation, de curiosité, parce que le spectateur se fatigue vite du débat, vous voyez, sur la même question.
Mais là, c'est l'onirisme le permet, ça raconte une histoire, et vous parliez de communauté de rêveurs, il y a beaucoup de rêves récurrents, en fait, de zombies. Il y en a beaucoup qui rêvent de zombies, de momies aussi, de cadavres. Ça revient au premier rêve.
En fait, si vous voulez...
Vous-même, vous avez dû rêver beaucoup en faisant ce film.
Sophie Bruno. Pour revenir au rêveur, moi, c'est plutôt que je ne dormais plus, vous voyez. C'était plutôt des insomnies que les rêveurs me créaient.
L'insomnie de quoi?
L'insomnie du fait de réfléchir, de penser beaucoup au travail et de voir aussi... un monde dont le mal a gagné beaucoup d'espace, en fait, vous voyez, la vision nocturne.
Le mal, c'est un mot puissant.
Oui, mais je trouve que quand on écoute ces 12 rêveurs, la vision nocturne qu'ils nous proposent, comme une espèce d'écho du jour, c'est quand même effectivement un défilé de momies, de morts vivants, de pratiques cannibales, de violences entre employés et employeurs, et de morts contre un bal, et que chacun a un rapport à la mort, en fait, et que j'ai vu, si vous voulez, en filmant, en enregistrant, tellement de belles personnes qui étaient mises à mal à leur travail et dont on voyait qu'elles travaillaient bien, hein, qui étaient des personnes de qualité.
Qui sont des personnes investies.
Ben oui, et c'est pas un paradoxe, en fait, ni une contradiction. Si vous voulez, c'est souvent les plus investis, les plus engagés qui souffrent le plus et qui sont les plus dégradés. D'abord parce que souvent, ils ont été trop loin, ils ne se sont pas écoutés et ils ont trop accepté, croyant que ce qui est demandé, ben, toujours pour le mieux et va dans le bon sens. Et puis, petit à petit, ben, ils dépassent leurs propres limites, d'une certaine manière. Souvent, c'est le corps qui dit stop. Vous voyez, c'est le corps, ils ne peuvent plus se lever. Un beau matin, tout d'un coup, ils ne peuvent plus se lever.
Ce qu'on appelle le burn-out.
Oui, le burn-out, qui est un générique un peu généraliste, qui recouvre beaucoup de réalités, en fait. C'est aussi bien la dépression que l'épuisement, que le karoshi, qui est la mort subite au travail. Mais du coup, et après, dans ces moments de congé maladie, qui sont importants parce qu'on doit se reconstruire, parfois ça permet de réfléchir, parce que je pense que le rêve est un matériau de résistance, et que souvent... il permet, dans une communication de soi à soi, ce qui est le propre du rêve, de mettre des mots là où on avait du mal à penser, en fait. Et c'est pour ça aussi que le cinéma est formidable, c'est que le rêve des autres peut être tiré à nous, parce que il va au-delà des rêveurs eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il est à la fois très ancré, très singulier, très personnel, très intime. Il n'y a pas plus intime et plus secret. Mais à la fois, il est très politique, dans le sens où il dépasse les rêveurs dans ce qu'il énonce. Et dans ce sens-là, ce sont des messages qui sont comme des images parlantes, qui en disent long alors que souvent ils sont brefs, mais qui vont au-delà dans la portée du message. Et je crois que c'est pour ça aussi que les rêveurs et rêveuses ont accepté que je filme leurs rêves, c'est que ces histoires-là les dépassent eux-mêmes.
Il faut savoir que quand la société a été reprise, les premières mesures, ça a été de supprimer des choses. On parlait des moments de coup de feu, ben une saison ça dure 2 mois, 3 mois, 4 mois. C'est très intense. Il se fait qu'on recevait une prime. C'était pas grand chose. Franchement, il n'y avait pas de quoi pavoiser, mais il y avait une prime, il y avait quelque chose. Eh bien la première mesure c'était ah, il n'y en a plus. Voilà, la situation financière n'est pas bonne. La société a été très mal gérée. Donc on va prendre une mesure, ça on va plus le faire. Je trouvais ça intéressant de savoir que d'être repris par une multinationale, derrière cette société, maintenant, une force financière, qui est quand même colossale, c'est intéressant de savoir que ces sociétés-là, la première mesure qu'elles mettent en place, c'est de retirer une cacahuète, quoi.
Retirer une cacahuète. Alors là, on n'est plus dans un rêve, mais je souhaitais à ce que cet extrait apparaisse, hein, dans l'émission, parce que cet homme, en fait, c'est le seul chez qui on sent un peu de colère. Et oui. Surtout de l'ironie. Moi, ce qui m'a frappé dans votre film, c'est que ces gens qui ont quand même vécu des histoires terribles, voire tragiques, hein, la dame opératrice, elle dit qu'elle a une telle charge de travail qu'elle pense qu'elle va mourir. Mmh. Et pourtant, on sent peu de colère dans votre film. Oui, comment vous expliquez ça ?
Je pense que c'est des gens qui ont beaucoup accepté, mais je pense qu'ils sont pas extraordinaires. Le rêve est extraordinaire et dit des choses de manière, dit l'ordinaire de manière extraordinaire. C'est Flaubert qui dit qu'il y a rien de plus difficile que restituer le banal. Et c'est vrai que je pense que une des vocations des cinéastes, c'est d'aller contre les idées reçues, mais c'est aussi comment on rend extraordinaire l'ordinaire. C'est de travailler le quotidien et ce qui nous concerne tous dans nos rapports sociaux et le vivre ensemble. Parce que celui qui vient de parler là juste à l'instant, il raconte la perte des rapports sociaux aussi. On supprime un repas de fin d'année, comme on supprime parfois le mot bonjour à l'arrivée au petit matin, que les gens s'étonnent qu'on se disent encore bonjour, vous voyez, et ça c'est quand même pointer des choses qui font le tissu de la vie quotidienne et les rapports sociaux au travail, donc oui.
Il y a beaucoup de solitude, effectivement, oui. On sent, enfin en tout cas de solitude organisée, enfin d'individuation, oui. Peut-être est-ce pour ça que dans vos plans, là où on écoute un témoignage, un rêve, on voit par exemple un immeuble la nuit et un veilleur de nuit. On voit juste la torche passer par les bureaux.
Je crois qu'il y a toujours plusieurs dimensions à un plan. C'est pour ça qu'il est riche et qu'il tient debout. Et le veilleur des nuits, c'est à la fois une luciole dans la nuit. Effectivement, c'est cette dimension poétique dans un endroit où il ne devrait pas en trouver. Donc, c'est des grandes barres d'immeubles où il y a des reflets. C'est comme l'aquarium de nuit, disait Victor Hugo à propos des rêves et de la nuit. Mais du coup, on voit effectivement des choses qui flottent sur les vitres. Il y a différents types de reflets parce que le monde du reflet est une chose qui donne le vertige dès qu'on l'explore.
Mais il se passe beaucoup de choses dans les plans, même s'ils sont fixes.
Oui. Mais c'est parce qu'ils sont fixes qu'il se passe beaucoup de choses. Vous savez, le mouvement, il naît de la fixité. Je dis, les grands cinéastes l'ont compris, hein, Ozu, Bresson, Ford sont des gens du plan fixe. Mais c'est parce que vous travaillez des plans dans la durée avec une forme de fixité qui relève du tableau mobile, hein, que des mouvements, d'autres mouvements peuvent apparaître. Le mouvement des corps qui traversent le plan, qui viennent de l'intérieur vers l'extérieur, qui vont de gauche ou de droite, qui travaillent à l'intérieur du cadre, ou le mouvement de la lumière ou le mouvement qui résonne entre les corps eux-mêmes et tous ces mouvements-là, ils sont bien plus cinématographiques que le mouvement de l'outil caméra. Donc c'est aussi comment ces mouvements-là peuvent raconter d'autres choses et être significatifs par rapport à ce que le film entend raconter. Et effectivement, ce veilleur de nuit qui se balade justement, qui se déplace à l'intérieur de la tour d'immeuble vide, il raconte des choses, il raconte une activité en train de se faire, il raconte une lumière dans la nuit qui a valeur de luciole, et puis il raconte aussi un rapport de contrôle tout en travaillant lui-même dans une grande solitude, donc et il raconte aussi un monde déshumanisé, où en même temps peut-être que effectivement cette espèce d'onirisme qui accompagne tout ça dit que peut-être autre chose est possible.
Sophie Bruneau, vous êtes d'origine belge, oui. Mais comment vous voyez la France de Macron, d'aujourd'hui, la France des Gilets jaunes, hein, est-ce que ça parle de ça, hein, c'est bien de ça qu'on parle aujourd'hui, de la finance internationale, des stock options, des actionnaires qui réclament toujours plus de bénéfices?
Ben, je crois que le problème par rapport à l'actualité, qui ne fait jamais que montrer une exacerbation de tout ce qu'on connaît tous, mais ça rejoint ce que disait le rêveur par ailleurs, vous voyez, c'est que l'employeur n'est souvent plus le patron, en fait. Au-dessus de lui, il y a des fonds d'investissement et que cette financiarisation de l'économie fait que bah, il y a peu de marge de pouvoir à l'intérieur de l'entreprise. Mais j'ai fait un débat avec un sociologue qui disait, le nouveau capitalisme, il veut plus de l'entreprise, il veut que tout le monde soit son propre entrepreneur. Et chacun à son travail doit gérer sa propre activité. Vous voyez, on doit se donner des résultats par objectif, on doit être indépendant et autonome dans sa propre fonction. Et puis après, il y a toute l'ubérisation où les gens se retrouvent comme des faux indépendants, comme on dit en Belgique, à avoir...
mais vrais précaires.
Oui, vrais précaires. Et aussi des gens qui travaillent souvent pour des boîtes, mais qui sont pigistes et qui devraient être salariés, en fait. Mais ça... aussi, comment dire, ça s'est généralisé à plein de secteurs d'activité qui avant ne fonctionnaient pas du tout comme ça. Au départ, on a regardé ça comme pour ceux qui, les jeunes, l'ubérisation. Mais moi, je me rends compte que dans les classes moyennes aujourd'hui, pour tenir, je reviens d'Espagne et je voyais la petite classe moyenne qui, pour tenir, fait du Airbnb. En fait, participe à des colocs et reçoivent. Mais il y a des problèmes de logement parce qu'il y a les fonds d'investissement qui arrivent, qui rachètent des immeubles, qui nettoie des quartiers populaires et les gens ne savent plus se loger. Donc, en fait, tout ce qui est à la base même d'une vie ordinaire au quotidien, qui est le loger, qui est le nourrir, etc., est mis à mal aujourd'hui. Donc, ce système basé sur la précarisation, il arrive à bout de souffle, en fait.
C'est-à-dire que le travail ronge notre intimité. Mais c'est-à-dire que cette idée que le travail durait 8 heures par jour était peut-être vrai il y a 50 ans ou 40 ans, voire 30 ans, mais plus du tout aujourd'hui. Est-ce que vous avez senti la différence entre 2006 et 2018?
Oui, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que je trouve que tout s'est exagéré. Alors que, vous voyez, je pensais qu'effectivement, on était arrivé au bout de quelque chose, que ça allait changer. Et en fait, rien du tout.
C'est ce que vous pensiez en 2006?
Oui, bien sûr. Et les problèmes d'anticipation se sont encore exagérés. Ce qu'on appelle tous les systèmes d'évaluation individualisée des performances qui font énormément de dégâts, où on considère que le travail est individuel, non pas collectif, et qui peut se mesurer, alors que effectivement, le travail, c'est du qualitatif. C'est comme l'amour, ça se mesure pas. C'est tout ce que la personne met à travers son intelligence pour que ça marche. Il y a une magnifique grève qui s'appelle la grève du zèle. C'est ce que quand on suit le règlement au pied de la lettre, ça ne marche plus. Donc ça montre bien que le travail, c'est la différence entre le prescrit et l'effectif. C'est tout ce que les gens rajoutent pour que ça marche. Et du coup, ben, effectivement, on est dans des approches qualitatives. On en vient aujourd'hui à tout mesurer au point où même les chirurgiens sont tenus à faire des opérations avec un minutage selon les organes qu'ils doivent opérer. Et ils peuvent plus choisir leurs équipes, mais on se retrouve avec des gestionnaires qui choisissent pour eux. Donc on détricote non seulement le vivre ensemble, les systèmes de coopération et de collaboration, mais ce qui fait notre bonheur au travail, en fait, et on peut tuer l'intelligence.
Merci beaucoup, Sophie Bruneau.
Merci à vous pour l'écoute.
Votre film Rêver sous le capitalisme, très beau film, parce que très beau documentaire de cinéma. Votre film est sorti en salle ce mercredi. Vos films précédents, et entre autres, Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés, sont disponibles en DVD. Oui. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin.
Et Elisabeth Le Quéré. À la réalisation, Fanny Renard.
Alors rendez-vous la semaine prochaine. Tout autre genre, tout autre style. Ce sera une émission spéciale consacrée aux nanars.